Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Récemment, dans une entreprise, à l'occasion de la pause, le sujet de la mort vint dans les conversations. On se tourna alors vers celui du groupe que l'on savait catholique. « Et toi, tu as peur de la mort ?» Celui-ci eut l'inspiration de répondre « Non, je n'ai pas peur de la mort, j'ai surtout peur du jugement. » Il y eut un grand silence et l'on changea de conversation. Il avait visé juste. Puisse sa réponse en avoir fait réfléchir plus d'un. Chers fidèles, en ce mois de novembre consacré à la prière pour les âmes du purgatoire, méditons quelques instants sur le jugement particulier que chaque âme doit subir au moment de la mort. C'est un sujet important auquel il nous faut réfléchir, parce que de ce jugement dépend toute notre éternité. Cela va nous amener à parler du don de la persévérance finale, de l'immutabilité de l'âme après la mort, et enfin du jugement particulier proprement dit. Et d'abord, le don de la persévérance finale. Ce don très important a pour effet de faire coïncider le moment de la mort avec l'état de grâce. Il n'est pas en notre pouvoir de fixer l'instant de notre mort, de le connaître. Nous parlons de la mort naturelle, bien sûr. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Notre Seigneur nous a dit lui-même qu'il viendrait comme un voleur, c'est-à-dire sans prévenir. Les voleurs ne préviennent pas. Alors, être en état de grâce à cet instant, à ce moment, c'est un don de Dieu. On peut mourir subitement dans un accident. On apprend régulièrement ce genre de nouvelles. Et si l'on ne meurt pas subitement, qui peut être assuré de persévérer jusqu'au bout? On connaît hélas des personnes qui ont même été un temps dans la tradition et puis qui ont disparu parce que les sollicitations de ce monde ont fait qu'elles ont tout laissé tomber. Pour persévérer dans le bien, dit le Concile de Trente, il faut un secours spécial qui ne peut venir que de Dieu. Et le Concile cite ici l'apôtre saint Paul disant que Dieu seul peut soutenir celui qui est debout et relever celui qui tombe. Ce secours de Dieu, nous pouvons l'obtenir si nous le demandons par nos prières, par une prière humble, confiante, persévérante. C'est le fruit d'ailleurs du quatrième mystère glorieux de notre rosaire, la grâce d'une bonne mort. La bonne mort, ce n'est pas mourir sans s'en apercevoir, comme pensent ceux qui n'ont pas la foi, c'est mourir en état de grâce. Deuxième point important à propos de la mort, c'est celui de l'immutabilité de l'âme aussitôt après la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, aussitôt que l'âme est séparée du corps, elle est fixée pour toujours dans le bien ou le mal où la mort l'a trouvée. Si un arbre tombe au midi ou au nord, dit l'Ecclésiaste, il reste à la place où il est tombé. Il faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est encore jour, dit notre Seigneur, car la nuit vient où nul ne peut plus travailler. La nuit ici, c'est la mort. C'est notre vie sur terre, donc lorsque notre corps est vivant, qui décide de notre éternité. Saint Paul le dit très clairement, nous tous, il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive ce qu'il a mérité lorsqu'il était dans son corps. selon ses œuvres, soit en bien, soit en mal. Et tel est l'enseignement universel et constant de l'Église, qui a d'ailleurs condamné la doctrine de Luther, soutenant qu'on pouvait continuer à mériter après la mort. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre de fidèles ou de prêtres de l'Église conciliaire qu'il y aurait encore un temps de rattrapage après la mort. C'est de la pure imagination, et cela n'a aucun fondement. Et il est même très grave de répandre de telles erreurs, parce que cela incite à vivre sans se préoccuper de son salut, en pensant qu'on s'arrangera bien avec le bon Dieu après la mort, et il y a beaucoup de gens qui disent cela. Au contraire, savoir que l'âme est fixée pour toujours, à l'instant de la séparation d'avec son corps, dans le bien ou le mal où la mort l'a trouvé, eh bien cela est une invitation à ne pas toujours remettre à plus tard sa conversion, comme le dit un des répons de Carême. Travaillons à nous corriger, afin que, surpris subitement par la mort, nous cherchions en vain à avoir le temps de faire pénitence. Tout ceci nous invite aussi à prier pour ceux qui s'éloignent de Dieu et qui vivent dans le péché, en faisant même célébrer des messes à leur intention pour leur obtenir la grâce de la bonne mort. Mais disons maintenant quelques mots du jugement particulier qui a lieu à l'instant de la séparation de l'âme et du corps. Tout d'abord, qui nous jugera ? Nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal du Christ, dit saint Paul. Notre Seigneur l'a dit lui-même, le Père ne juge personne, mais il a remis au Fils le pouvoir de tout juger. Et c'est en tant qu'homme, roi de tous les hommes, que notre Seigneur exerce ce pouvoir. À la fin de leur vie, tous les hommes comparaissent donc devant le Christ roi. Dans son encyclique Quas Primas sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, le pape Pie XI ajoute cette précision, que le pouvoir de juger de notre Seigneur, ce pouvoir inclut, comme tout pouvoir judiciaire, la faculté de récompenser ou de punir. En quoi consiste ce jugement particulier ? Il ne faut pas l'imaginer à la manière humaine, où l'âme, interrogée sur toute sa vie, aurait à s'expliquer devant notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas besoin d'explication. Il sait tout sur nous, et mieux que nous. Il est infiniment juste, et il est en même temps infiniment miséricordieux, car il juge en tenant compte de notre faiblesse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « C'est parce que Jésus est juste qu'il est compatissant et plein de douceur, lent à punir et plein de miséricorde. » Car il connaît notre fragilité. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. La justice divine qui effraie tant d'âmes faisait au contraire la joie et la confiance de Thérèse. L'âme étant à découvert devant notre Seigneur, elle est jugée aussitôt qu'elle se trouve devant lui. Par une illumination immédiate de son intelligence, tout ce qu'elle a pensé, désiré, dit et fait de bien et de mal, tout le bien qu'elle a omis de faire pendant toute sa vie, tout cela lui apparaît immédiatement, de même ce qu'elle mérite. Elle voit spirituellement dans le même instant qu'elle est jugée par notre Seigneur et elle porte le même jugement que lui, sachant qu'il est absolument juste. Malheur alors à ceux qui sont morts en état de péché mortel, qui ne se sont jamais préoccupés de leur salut, qui ont vécu dans le péché sans se soucier et qui ont été surpris un jour par la mort dans cet état-là. Bien sûr, on ne peut jamais dire de quelqu'un qui a toujours vécu dans le péché qu'il est certainement damné. Pensons à la conversion du bon larron sur sa croix le Vendredi Saint. Cependant, de telles conversions in extremis sont presque de l'ordre du miracle. L'arbre tombe ordinairement du côté où il a penché. Il faut bien sûr prier pour les pécheurs. Mais pour nous-mêmes, ne jouons pas avec la miséricorde. Si une âme est dans le péché mortel à l'instant où elle se sépare du corps, notre Seigneur ne peut rien pour elle. Il ne peut rien. Et comme une pierre que nous avons dans la main tombe vers le bas aussitôt que nous la lâchons, l'âme tombe aussitôt en enfer pour toujours. Dans notre monde apostat, on peut se demander dans quel état les âmes meurent aujourd'hui. Combien sont en état de grâce, qui meurent dans les hôpitaux, les EHPAD, dans un accident ou chez eux? Notre-Dame à Fatima a montré l'enfer aux trois petits pâtres. Jacinthe disait qu'elle voyait les âmes y tomber comme une pluie fine. Mais c'était en 1917. Qu'en est-il en 2021? Plus que jamais doit être présent à notre esprit l'appel de Notre-Dame. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. Donc ne nous décourageons pas non plus si dans notre famille ou parmi nos amis, certains vivent dans le péché. Les paroles de Notre-Dame nous indiquent que nos prières et les sacrifices de nos devoirs quotidiens peuvent les sauver. Et alors, heureuses les âmes qui meurent en état de grâce. Elles savent immédiatement à cet instant qu'elles sont sauvées pour toujours. Elles ont réussi leur vie. Alors, telle une plume légère qui s'élève dans l'air, portée par le vent, elle s'envole pleine de bonheur vers le ciel. S'il leur reste encore à subir une peine temporaire due à des péchés véniels non encore remis, ou à des péchés mortels ou véniels déjà pardonnés mais non encore expiés, ou encore à des défauts qu'elles n'avaient pas corrigés sur terre, eh bien, elles passeront d'abord, bien sûr, par le purgatoire, qui est un lieu d'expiation et de purification. Et là, elles offrent volontairement, par amour, leur souffrance purificatrice. D'ailleurs, elles ne voudraient pas paraître devant le Dieu trois fois saint avant d'avoir été totalement purifiées et avant d'avoir tout réparé. Et pour rien au monde, elles ne voudraient revenir sur terre maintenant qu'elles sont sauvées pour toujours. Et quand tout est réparé et purifié avec l'aide des prières et des sacrifices de ceux qui sont restés sur terre, alors elles font leur entrée dans le ciel. Comme le dit la belle antienne In Paradisum que nous chantons à la fin des funérailles, les anges qui la reçoivent, les anges la reçoivent, les martyrs l'accueillent. Le patron de la bonne mort, c'est Saint Joseph, parce qu'il est mort entre les bras de Jésus et de Marie. Dans nos prières, pour demander la grâce d'une bonne mort, n'oublions pas d'ajouter une invocation à Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.